9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Le 1er mai 1886, à Chicago, une grève est lancée dans une usine de matériel agricole. L'usine en question s'appelle l'usine McCormick. Je dis ça pour ceux qui feraient du Trivial Poursuite en cette journée de 1er mai. Donc, on est en 1886 à Chicago. La date n'a pas été choisie au hasard parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, le 1er mai, c'est le Moving Day, c'est-à-dire, en tout cas à cette époque, le jour où les contrats des ouvriers arrivent à expiration et où chacun doit donc chercher du travail. Les grévistes qui ont été emmenés par un groupe d'anarchistes, hein, n'oubliez pas qu'on est au milieu de ces années 1880, qui sont très propices à l'anarchisme, les grévistes ont l'intention de frapper fort. Ça fait longtemps déjà qu'ils demandent la journée de 8 heures. C'est une revendication qui a été exigée par les syndicalistes américains, inscrite au programme de l'Association internationale des travailleurs. Cette association internationale, c'est ce qu'on peut appeler la première internationale ouvrière. Alors que les grévistes sont en train déjà de se disperser en ce 1er mai 1886, voilà que 200 policiers font d'un seul coup irruption et, chose incroyable, se mettent à charger avec un bilan très lourd, un mort, une dizaine de blessés, dont plusieurs assez graves. Les anarchistes immédiatement vont lancer un appel à un rassemblement de protestation contre cette violence policière, rassemblement qui doit avoir lieu à 7h30 du soir à 19h30 le 4 mai à Haymarket Square, donc toujours là-bas à Chicago. Ils souhaitent une réunion pacifique, bien sûr, tous ces gens, mais ils demandent quand même que, le cas échéant, on se munisse d'armes de légitime défense. Bref, tout le monde est en train de se préparer à l'affrontement. Et ce soir-là, les anarchistes prennent la parole dans un certain calme, en présence d'ailleurs du maire de Chicago. Autour de 22h néanmoins, alors que la foule est en train de quitter la réunion petit à petit, ça fait 3h qu'on est là à battre le pavé, environ 180 policiers surgissent à nouveau et voilà qu'ils chargent les grévistes. Les anarchistes vont lancer une bombe sur le service d'ordre, ça va tuer 8 policiers. Immédiatement, fusillade, inutile de vous dire, fusillade des deux côtés, bref, 4 ouvriers vont être abattus, une cinquantaine seront blessés, 8 meneurs anarchistes vont être arrêtés. Et quelques semaines plus tard, à l'issue d'un procès retentissant, 4 seront condamnés à la prison à perpétuité, 1 se suicidera en cellule et 4 autres seront pendus. Voyez la violence de cet événement, de ces événements de Chicago, qui bien sûr vont avoir un retentissement mondial. Un retentissement dont on peut dire qu'il est sans précédent dans le monde ouvrier. En juillet 1889, à Paris, juillet 89, c'est le centenaire de la prise de la Bastille, bien entendu, les partis socialistes et ouvriers d'Europe sont réunis en congrès. Ils vont fonder l'Internationale ouvrière. C'est donc historiquement ce qu'on appelle la deuxième internationale. Ils décident l'instauration d'une journée internationale de revendication des travailleurs afin de réclamer la journée de 8 heures. Et il faut trouver une date pour ce moment qui, tous les ans, doit rappeler cette revendication, etc. Et la date, évidemment, elle est choisie en référence à tout ce qui s'était passé à Chicago 3 ans plus tôt, on choisit la date du 1er mai. L'année suivante, en 1890, le chef du Parti ouvrier français, qui s'appelle Jules Guesde, bien sûr, va inventer le terme de « fête du travail ». Mais à cette époque, si la liberté syndicale et le droit de grève sont plus ou moins garantis, dites-vous bien que l'idée d'une telle fête ouvrière a de quoi inquiéter de très nombreux patrons. Or voilà, là-dessus, si je puis dire, que le vendredi 1er mai 1891, donc encore l'année suivante, dans une ville industrielle du nord de la France, qui se trouve à 8 km de la frontière belge, cette ville s'est fourmie, les ouvriers suivent le mot d'ordre de la deuxième internationale et ils se mettent à refuser de travailler. C'est la journée chômée, c'est le 1er mai. Dans toute la région, faut dire qu'on est là dans un des bastions du Parti ouvrier français, hein, bien entendu, dans toute la région, donc, on arrête de travailler. Fourmi est un petit peu plus ou moins en insurrection. L'un des fondateurs de ce Parti ouvrier français Paul Lafargue, qui n'est autre que le gendre de Karl Marx, est candidat aux élections municipales à Fourmi. On a l'intention de faire la fête à Fourmi. L'ambiance se veut festive, seulement les patrons des filatures de Fourmi ont fait coller partout des affiches qui disent qu'on refusera tout compromis et qui menace ces affiches, qui menace les ouvriers qui voudraient cesser le travail. Et on demande, quand je dis on, ce sont les patrons du coin, demande au préfet un important dispositif pour maintenir l'ordre. Dans la matinée, 15 manifestants déjà sont arrêtés. Ça va évidemment faire monter un peu les esprits. On est là autour de cet endroit où on a arrêté les manifestants. Dans l'après-midi, les esprits s'échauffent sur la place de la ville. Il y a des gendarmes qui sont là et des compagnies d'infanterie qui ont été dépêchées à Fourmi. En face, bien sûr, les ouvriers grévistes qui veulent absolument qu'on libère leurs camarades qui sont arrêtés, qui sont là juste dans les locaux de la mairie. Or, à 18h25, ordre est donné de faire feu sur les manifestants. J'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de raconter cette journée de Fourmi, bien sûr. Je cite Paul Lafargue lui-même. Alors, les soldats, sans avoir été provoqués par la foule, sans avoir fait les trois sommations réglementaires, il insiste bien sur ces deux aspects, hein, bien sûr, les soldats tirèrent. La boucherie aurait duré longtemps encore si le curé n'était pas sorti de sa maison et n'avait pas crié « Assez de victimes !» 9 enfants étaient couchés sur la place, un homme de 30 ans, 2 jeunes gens de 20 ans, 2 enfants de 11 et 12 ans et 4 jeunes filles de 17 à 20 ans. En tout, ce seront même 10 manifestants qui seront tués, 38 qui vont être blessés. Et c'est en souvenir de ce qui devait être une fête pour les travailleurs et qui s'est terminée donc en carnage, que les ouvriers vont désormais épingler une églantine écarlate à leur veste. Pourquoi une églantine? D'abord, c'est une fleur assez commune dans le Nord, et puis c'est rouge l'églantine, c'est le symbole du sang versé, et ça fait bien sûr, ça veut faire en tout cas référence à Philippe Fabre d'Églantine, qui en 1793, au fort de la Révolution, avait dédié une journée aux travailleurs dans le nouveau calendrier républicain qu'il avait élaboré lui-même. Malgré les avancées dans les rangs syndicaux avec la création de la CGT en 1895, la Confédération Générale du Travail, il y a aussi la Charte d'Amiens, 11 ans plus tard, qui va fonder le syndicalisme révolutionnaire, les rassemblements du 1er mai n'attirent toujours pas les foules. Dans un premier temps, c'est assez clairsemé, il faut bien le dire, d'autant plus que certains de ces cortèges se terminent par des bains de sang. Le 1er mai 1919, donc au lendemain de la Grande Guerre, la CGT décide d'organiser un immense défilé à Paris. Là encore, ça donne lieu à des affrontements. 2 manifestants vont être tués par les forces de l'ordre. Aller défiler le 1er mai à l'époque, c'était un véritable acte de courage. Il y a d'autres défilés qui vont être des tours de force. Et puis bien sûr, le plus célèbre de tous, celui du 1er mai 1936, qui se trouve, ça c'est le hasard du calendrier, qui se place entre les deux tours de ces fameuses élections législatives qui viennent de donner un net avantage au Front populaire. Les syndicats vont renouveler leurs revendications. Mais le paradoxe de cette affaire, c'est que, alors que vous l'avez compris, la fête du 1er mai puise ses origines dans des revendications ouvrières, dans des revendications extrêmement fortes du monde ouvrier, c'est en fait le régime de Vichy qui va donner un caractère officiel à cette fête. C'est la loi Belin. Belin, c'est le nom du ministre du Travail du maréchal Pétain, qui est ancien secrétaire confédéral de la CGT d'ailleurs, qui va décréter ce 1er mai chômé et payé, une journée rebaptisée Fête du Travail et de la Concorde Nationale, ça va durer bien sûr, jusqu'en 1944. À la Libération en 1945, on supprime le 1er mai, on le réinstitue en 1947, une année très 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 forte en revendications sociales de tous ordres, 1947, ça devient simplement la fête du travail, jour payé et chômé, et puis depuis bien sûr, vous savez que chaque 1er mai, les centrales syndicales organisent partout en France des rassemblements, souvent en ordre dispersé, ça dépend des années, rassemblements qui attirent plus ou moins de monde en fonction de l'actualité sociale et politique. Évidemment, je parle là du temps d'avant le confinement. Vous avez entendu tout à l'heure dans le journal qu'il n'y aurait bien sûr pas de grande réunion aujourd'hui. Ces défilés sont une tradition, comme celle d'offrir du muguet, bien sûr, une des nombreuses coutumes populaires, parce que, et c'est ce qui va m'intéresser maintenant, avant de devenir la fête du travail, le premier jour de mai, pendant des siècles et des siècles, a été l'objet d'une multitude de rites et de croyances. C'était la date du renouveau printanier, idéale, cette date, pour chasser le mauvais sort à coups de brins de muguet. Vous avez reconnu les accents de l'international, bien entendu, interprété par Stéphane Grappelli et quelques-uns de ses amis. C'était la bande originale du film de Louis Malle, un film de 1990, Milou en mai. Je vais remonter là pour presque un demi-millénaire en arrière, puisque c'est au début des années 1560. C'est à ce moment-là que remonte la tradition d'offrir du muguet. On choisit de préférence des brins à 13 cloches, évidemment, c'est pour porter bonheur. Le 1er mai 1560, en effet, le roi Charles IX est en train de faire sa grande tournée de la France avec sa mère Catherine de Médicis, et alors qu'il est en visite dans le Dauphiné, il se voit offrir un brin de muguet, il trouve ça formidable, il décide désormais chaque année d'en offrir aux dames de la cour. La tradition va se maintenir un certain temps et puis elle disparaît, elle reviendra par la suite, mais beaucoup plus tard seulement, au 19e siècle, et elle revient, si vous êtes collectionneur de cartes postales, ça vous le savez forcément, elle revient grâce au chanteur Félix Mayol, qui arbore du muguet au revers de sa veste à tous ses concerts dans cette période printanière. Et puis ensuite, on peut dire aussi que de grands couturiers vont s'habituer à offrir du muguet, notamment c'est Christian Dior qui chaque année offre à ses clientes, mais aussi à ses employés, de belles brassées de muguet. Christian Dior, l'homme du printemps et du renouveau, si je puis dire. En 1941, donc, je vous l'ai dit, le régime de Vichy va créer cette fête du travail et de la concorde nationale, et on associe immédiatement le muguet à cette fête du 1er mai. Il faut vous dire que l'habitude de porter de l'églantine à la veste, de cette églantine rouge, avait un côté beaucoup trop ouvrier, beaucoup trop gauchiste pour le régime de Vichy, bien entendu. Jusqu'au milieu du siècle dernier, dans certains terroirs, d'autres fleurs étaient cueillies et offertes le 1er mai. C'est le printemps, tout simplement. Puis c'était aussi, ne l'oublions pas, une forme de protection contre les mauvais sorts. Parce que dans pas mal de régions, on disait que le début du mois de mai, c'était le moment où les sorcières sortaient pour faire leur sabbat. Et donc, il fallait se protéger du sort des sorcières. C'est le cas dans mon cher Poitou natal, mais c'est le cas aussi dans le Nivernais, par exemple, ou en Anjou, où on a énormément de cas de ce genre. Dans le Bourbonnais, l'herbe à serpent, le matago, hein, encore le saut de Salomon, qu'on appelle aussi le muguet bleu, était cueilli. En Lorraine, on avait pris l'habitude au début du mois de mai de porter à la boutonnière de la verveine, censée elle aussi chasser les mauvais esprits. Et dans pas mal de régions, c'était la fleur souveraine de ces débuts de printemps, la fleur proustienne, si je puis dire, l'aubépine qu'on cueillait et qui accompagnait les festivités. Dans le Périgord, les murs extérieurs des maisons, des granges, des étables, etc., étaient couverts de verdure et de rameaux de noyer qu'on installait pour faire de véritables décors. On pourrait comme ça faire tout le tour des régions françaises. C'est extraordinaire d'ailleurs, ce folklore, ces traditions dans toutes les régions françaises qui se sont plus ou moins, ces traditions maintenues jusqu'à nos jours, et qui sont aussi variées et aussi complémentaires, si je puis dire, que le sont les paysages même de notre belle France. Jusqu'au milieu du 19e siècle, une des traditions les plus répandues, et alors ça c'est vrai dans toute l'Europe occidentale, ça, c'était d'aller choisir ce qu'on appelait l'arbre de mai. On choisissait un arbre sur le territoire de chaque commune, un des plus hauts, des plus droits qu'on pouvait trouver. Souvent, c'était un pin, un sapin ou un mélèze. On le dépouillait de ses branches, cet arbre, et on le plaçait dans un endroit dans lequel il se desséchait tranquillement, aux côtés des branches mises de côté par les jeunes gens du village. Et puis, quelques semaines plus tard, au moment de la fête de la Saint-Jean, bien sûr, pour accueillir l'été, eh bien, on dansait autour de l'arbre de mai et on le brûlait. En Grande-Bretagne, il y a là un véritable culte, hein, des hommes, des femmes, même des enfants d'ailleurs vont passer la nuit du 30 avril au 1er mai en forêt, ça se fait encore aujourd'hui, et ils reviennent au matin avec des rameaux de bouleau, des branches, un arbre qu'ils dressent au centre du village, ils le recouvrent de fleurs, ils le peignent parfois de couleurs diverses, évidemment, et on va autour de ce qui est un peu un symbole phallique, on va célébrer d'une certaine façon le retour du printemps et la fécondité et les futures cultures et moissons. Il y a quelque chose à rapprocher là, bien sûr, du sabbat des sorcières, et c'est pas étonnant que l'Église se soit beaucoup opposée à ce genre de manifestation. En France, le 1er mai ne s'organise pas toujours autour d'un arbre ou de fleurs, mais il y a toujours eu cette idée d'un esprit de renouveau. On élit d'ailleurs dans certaines régions une reine de mai. C'est une jeune fille, très jeune fille, habillée de blanc, couverte de fleurs. Parfois même dans le Dauphiné, par exemple, c'est un petit garçon habillé en fille. À cette occasion, une quête est effectuée et l'argent est donné à la fille la plus pauvre du village. Enfin, je dis « est », était évidemment. En Alsace, des écolières vêtues de blanc allaient de maison en maison pour demander des œufs. Dans le Berry, la rosée était recueillie à l'aube du 1er mai parce qu'elle avait des vertus, disait-on, curatives. Certains d'ailleurs, dit-on, alors là c'est plutôt dans les régions alpestres, hein, en Isère notamment, certains se rouleraient nus dans la rosée. Au XIXe siècle, à Metz, une procession était organisée à la porte des Allemands. Hein, le matin du 1er mai, on allait boire l'eau de la bonne fontaine. Ça, c'était une manière de montrer que les traditions n'étaient pas mortes avec l'annexion. Le 1er mai est également le jour de la protection des troupeaux. Dans le Rouergue, dans le Dauphiné, le curé de la paroisse visite les étables, bénit les troupeaux. Dans le Massif central, en Bretagne, on munit les bêtes, principalement celles qui sont en tête des troupeaux, d'amulettes pour les préserver toujours de ce mauvais sort. Toujours cette idée. Et puis, c'est le grand nettoyage de printemps, n'est-ce pas? On nettoie les étables, on y fait brûler des ronces, du laurier, du sureau et des morceaux de cuir. Autour des étables, des pots contenant des charbons allumés étaient disposés. Une ronce ayant une racine à chaque extrémité était fixée à la porte d'entrée. Enfin, vous voyez, toutes sortes de traditions, je pourrais y passer la matinée entière. Alors, d'où viennent-elles ces traditions? Bien, inutile de vous dire qu'elles remontent bien, bien avant le XVIe siècle, elles, pour le coup. Elles puisent leurs racines dans de très, très anciennes fêtes païennes. Thank you. Ricardo Chailly, à la tête du Concertgebouw d'Amsterdam, interprétait cette célébrissime valse numéro 2 de Chostakovitch, bien sûr. Alors, je vous parlais de fêtes païennes très anciennes. C'est dans la fête de Beltane qu'il faut chercher les origines de toutes ces traditions. Au tout début de notre mois de mai, les Celtes rendaient en effet hommage à Belenos, le dieu du soleil et de la prospérité. C'était le début de la belle saison, d'une certaine manière. D'ailleurs, à l'époque, déjà, le muguet était considéré comme porte-bonheur. Si l'on en croit Jean Marcal, qui était une grande référence en matière de tradition celtique, il semble qu'à l'origine, cette fête de Beltane, nous dit-il, soit un rite pastoral. Les Celtes ont été avant tout des pasteurs, éleveurs de bovins. En Irlande, ils le sont restés encore plus longtemps que les Gaulois et les Bretons. Leur société, d'après leurs coutumes et leurs lois, est essentiellement pastorale et non pas agricole. Et oui, ce sont des éleveurs, d'une certaine manière. Et pour protéger les troupeaux de toutes sortes de dangers, des rituels de purification et de conjuration étaient de rigueur au moment de cette grande fête. Un moine irlandais qui s'appelle Muircu, qui écrivait la vie de Saint-Patrick, on est à la fin du 7e siècle, nous dit « C'était autrefois la coutume des païens de faire des incantations, des tours de magie et autres superstitions idolâtres. Cela se passait en présence des rois, des officiers, des généraux, des chefs et des dignitaires du peuple, ainsi que des mages, des sorciers, des devins et autres experts et savants en exercice du même genre. » Tous étaient convoqués auprès du roi. Une coutume existait à cette occasion. Des édiles l'avaient fixée et portée à la connaissance de tous. Quiconque, dans le pays, proche ou lointain, allumerait un feu avant celui du palais du roi, serait condamné à être brûlé et il serait sacrifié en présence de tout le peuple. Ah bah oui, évidemment, c'est une façon aussi pour tous ces nouveaux chrétiens des premiers siècles de notre ère de démolir, si je puis dire, et de dégrader le souvenir des anciens cultes païens. Sur l'île de Man, il faut le savoir, chaque 1er mai, il est toujours bon de donner du feu à quelqu'un. Et aujourd'hui encore en Irlande, si le feu s'éteint dans la nuit du 30 avril au 1er mai dans une maison, eh bien, il faut aller chercher un tison à la maison du prêtre pour le rallumer. Vous voyez que cette idée de feu reste également très importante. La fête de Beltane, c'est sans doute petit à petit déplacé dans la culture germanique. Selon une tradition, les divinités du printemps ont l'habitude de se retrouver tous les ans dans la nuit du 30 avril au 1er mai pour mettre fin à l'hiver. Alors où se retrouvent-elles toutes ces divinités? Bien sûr, la montagne de Walpurgis. Cette nuit est nommée en l'honneur de Sainte Walpurge, une missionnaire anglo-saxonne du 8e siècle qui a évangélisé la Germanie, qu'on célèbre comme par hasard le 1er mai. À sa mort en 780, ses restes sont transférés à Eichstätt en Bavière et placé dans un rocher d'où émane une huile jugée miraculeuse. On la vend comme remède. Ça a été un lieu de pèlerinage d'ailleurs. Elle sera, cette sainte, considérée comme protectrice des arts magiques. Vous voyez que les traditions païennes ne sont jamais loin d'une certaine manière. Elles ont été récupérées par l'Église qui a mis en garde souvent contre une fête impie dont on trouve encore la trace dans la célèbre nuit de Walpurgis de Goethe, bien sûr dans son Faust. Écoute le frémissement plaintif des rameaux qui se brisent, l'ébranlement sonore des troncs d'arbres puissamment secoués, le sifflement des racines. C'est Méphisto, bien entendu, qui parle ainsi. Cette nuit de Walpurgis, cette nuit de Goethe décrite dans Faust, sera l'objet, vous le savez, je n'ai pas besoin de dire ça à des auditeurs de Radio Classique, l'objet de toutes sortes d'adaptations musicales, notamment chez Mendelssohn et chez Gounod. Mais regardez-le avec tout son muguet, c'est Christian Morin. Bonjour Christian. Bon 1er mai.
Bon 1er mai à vous également. Oui, c'est un 1er mai, c'est la première fois que nous partageons ce 1er mai ensemble sur cette antenne de Radio Classique.
Oui.
De cette façon.
De cette façon.
J'entends
un peu à distance,
bien.
Il faut bien le dire.
À distance. Alors, justement, dites-moi, je pensais à quelque chose, c'est que tous les matins, vous nous racontez souvent tous ces personnages de l'histoire de France, mais il y a également des peintres, je pense à Géricault récemment, des musiciens, des gens de cinéma. On a eu droit à la vie, le parcours de Rita Hayworth l'autre jour, mais vous qui avez travaillé aux côtés de Pierre Bellemare, ce serait peut-être bien un matin, ce n'est pas une réclamation des auditeurs, mais c'est un avis personnel, ce serait bien que vous nous parliez de gens de radio, tout simplement.
Ah mais oui, mais figurez-vous que je vais bientôt consacrer une émission à ce metteur en onde qui était tombé tout jeune dans le dans le chaudron à cet homme de radio qui était né à Châlons en Champagne. À l'époque,
c'est
on disait
vrai.
Châlons sur Marne, mais oui. On peut dire qu'un homme qui aime les belles mécaniques et qui collectionne les vinyles ne peut pas être mauvais, n'est-ce pas ? En ce 1er mai, cher Christian, nous célébrons les 20 ans aux manettes de Radio Classique.
De Bertrand Dorigny.
Dont une bonne douzaine aux commandes de la matinale, bien entendu.
Bien sûr.
De Bertrand Dorigny, que je salue et que j'embrasse en ce 1er mai.
Et à qui on souhaite tous les deux un très très bon anniversaire ce matin. Et j'ai le plaisir de partager l'antenne avec lui depuis 2 années. C'est un régal, c'est un bonheur, donc on va l'encenser. Et j'ai trouvé justement un petit gag de Alphonse Allais qui pourrait faire partie du musée de Bertrand Dorigny. Il a un aquarium opaque pour poissons timides. Il a un vrai morceau de la fausse croix. Il a une tasse à café avec anse à gauche pour les gauchers. Et enfin, le crâne de Voltaire enfant, ce qui est très recherché
magnifique
aujourd'hui. Mon cher, il ne peut pas nous répondre, mais il va nous
répondre.
Non, mais
je le vois hocher la tête, là.
Voilà, voilà. Oui, on lui souhaite, hein, et on l'embrasse bien, bien amicalement, en tous les cas. Un très bon anniversaire, Bertrand Dorigny, qui, j'ai le plaisir, ce matin, c'est lui qui va nous accompagner jusqu'à midi, avant de retrouver Laurence Ferrari tout à l'heure. Merci beaucoup, mon cher Franck.
Bon 1er mai à tous.
Ce portrait était délicieux.
Oui.
Quand vous allez le développer pendant une demi-heure,
ça va être
la
magnifique,
semaine prochaine,
voir ça.
Les jours à venir, ça va être épatant. Je vous souhaite le meilleur, bonne journée, bonnes écritures. Je crois que vous travaillez en ce moment, tant mieux, continuez. Et puis, on se croise bien sûr tout à l'heure à 14h. Alors, avec l'empereur Hirohito.
Oui, c'est un personnage assez controversé du XXe siècle, bien sûr, cet empereur du Japon.
Et puis, le plaisir de vous retrouver, bien sûr, pour croiser le fer de la parole lundi matin.
Bon 1er mai et bon week-end, oui.
Merci Franck.